Les dessous de l'Infox, Sophie Malibaud.
Bonjour, bienvenue dans les dessous de l'Infox. La clinique des rumeurs, c'est l'histoire d'une aventure journalistique éphémère dans le Boston des années 40 que vient nous raconter Pascal Froissart, spécialiste des sciences de l'information. Invention du fact-checking avant l'heure, des réseaux sociaux, avec ses succès et ses déboires, de quoi réfléchir à notre manière de lutter contre les infox et la désinformation. Un vivier de propagandistes étrangers à la solde du Kremlin. L'entreprise emprunte les codes du journalisme, mais n'a rien d'un organe indépendant, comme a pu le vérifier Reporters sans frontières. Pauline Moffret vient nous en parler. Mais on commence par la chronique des dessous de l'Infox. Alors que s'ouvre à Paris une conférence mondiale sur l'intelligence artificielle, Grégory Genevrier nous montre comment des IA génératrices d'images risquent d'altérer notre regard sur les politiques. Qu'on le veuille ou non, c'est l'occasion de rappeler quelques trucs pour éviter de se faire piéger. Bonjour Grégory Genevrier.
Bonjour Sophie.
Les outils d'IA générative se perfectionnent de jour en jour. Les images synthétiques ciblant des personnalités politiques de premier plan aussi. Et elles se propagent au point de tromper parfois la vigilance de certains médias. Derniers exemples en date, deux fausses photos ciblant Donald Trump et d'un autre côté le Premier ministre britannique Keir Starmer.
Oui, si vous suivez l'actualité américaine, vous avez probablement vu passer cette image montrant le président américain aux côtés du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et du patron de X, Elon Musk. Les trois hommes en costume prennent la pose, debout, tout sourire dans ce qui ressemble à un salon de la Maison Blanche ou à un luxueux palace. À en croire ceux qui la partagent sur les réseaux sociaux, cette photo aurait été prise au moment de la visite de Benjamin Netanyahou à Washington ce mardi. Plusieurs médias italiens l'ont également publié telle quelle en une de leur site internet.
Sauf que, vérification faite, cette photo n'est pas réelle.
Non, elle a été générée par l'intelligence artificielle. On le sait d'abord car en remontant à la source de cette image, on retrouve son auteur qui précise bien en commentaire « image créée à l'aide de l'IA ». Cela confirme les résultats des détecteurs d'IA que nous avons utilisés. Benjamin Netanyahou a bien rencontré Elon Musk et Donald Trump, mais aucune photo ne les montre ensemble dans la même pièce.
Alors, est-ce qu'il y avait moyen de s'en rendre compte simplement en regardant l'image?
Alors oui, en y regardant de plus près, plusieurs éléments permettent de douter de son authenticité. Comme souvent, l'IA pêche au niveau des mains, les doigts des trois hommes sont déformés avec ce qui ressemble à des bourrelets. En arrière-plan aussi, un homme n'a pas de visage, mais malgré ça, il faut le dire, l'image reste très crédible et il est facile de tomber dans le panneau.
Et vous nous dites, Grégory, que le même type de manipulation a également ciblé Keir Starmer, le Premier ministre britannique, ces derniers jours.
Oui, il en a également fait les frais. Une image le montrant en train de déguster un homard dans un grand restaurant cumule actuellement des millions de vues. Des internautes s'en servent pour s'attaquer à la politique sociale menée par Keir Starmer, un homme politique de gauche.
Sauf que là encore, cette image a été générée par l'intelligence artificielle.
Plusieurs éléments le prouvent, à commencer par le logo de Grok, l'outil de génération d'images de X visible en bas à droite de l'image. Ce tampon atteste de l'utilisation de l'IA. Malheureusement, pour le voir, il faut ouvrir l'image en intégralité, puis zoomer suffisamment dans la zone concernée. Manipulation que la plupart des utilisateurs ne font pas.
Et en quoi ces images sont-elles nocives pour nos sociétés?
Eh bien, si elles peuvent paraître anodines, voire rigolotes pour certaines, ces images artificielles brouillent le débat public. L'analyse des échanges sur les réseaux sociaux montre que certains s'appuient sur ces fausses images pour se forger une opinion. La frontière entre le vrai et le faux devient de plus en plus poreuse. Et qu'on s'y attarde ou non, ces infox laissent toujours des traces. Ce qui aboutit à installer un doute permanent, mais aussi à faire émerger des réalités alternatives dangereuses pour les démocraties.
Merci Grégory Genevrier. Alors, cette chronique est à retrouver sur notre site en images. Alors, la désinformation et les fausses rumeurs n'ont pas attendu l'IA pour circuler et créer le trouble dans l'opinion publique. Et l'on va voir avec notre invité à présent comment, dans un contexte de guerre mondiale en 1942, une initiative voit le jour pour tenter de tordre le cou aux rumeurs. Bonjour Pascal Froissart.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités en sciences de l'information et de la communication. Vous travaillez depuis de nombreuses années sur les fake news, infox et rumeurs. Et vous venez de publier le livre « L'invention du fact-checking, enquête sur la clinique des rumeurs, Boston, 1942-43, aux presses universitaires de France ». Alors pour entrer dans le vif du sujet, à Boston. On est donc aux États-Unis en février 42. C'est le début d'une nouvelle rubrique dans un petit journal, le Boston Herald. Et cette rubrique s'appelle « La clinique des rumeurs ». L'initiative aura un grand retentissement. En apparence, ça ressemblait au site de fact-checking, aux rubriques de fact-checking que l'on voit aussi maintenant dans la plupart des grands organes de presse.
Oui, c'est l'aspect le plus novateur de ce livre, c'est-à-dire de montrer que ce qui était passé sous les radars, parce que ça s'appelait la clinique des rumeurs, est en fait la première rubrique de fact-checking de l'histoire du journalisme. Jusqu'à présent, on utilisait dans les journaux des articles pour démentir ou au contraire confirmer des faits qui avaient déjà été publiés, mais c'était la première fois qu'il y avait une rubrique, c'est-à-dire quelque chose de régulier, toutes les semaines, qui apparaissait et dont le seul but était de montrer la fausseté ou la vérité des informations qui circulaient dans la ville de Boston ou plus largement aux États-Unis. Et c'est vrai que c'est tout à fait étrange de découvrir qu'en 1942, il y a une bande de journalistes, une poignée, enfin très peu de nombreux, qui se mettent en tête de lutter contre ce qu'ils estimaient être les fléaux de leur temps. Mais on est en période de guerre, on est en pleine Seconde Guerre mondiale, les États-Unis viennent d'entrer dans la Seconde Guerre mondiale. Donc ils voulaient lutter à la fois contre la propagande nazie, mais pas seulement, ils voulaient aussi lutter contre le racisme, ils voulaient lutter contre l'antisémitisme, ils voulaient lutter contre l'anglophobie aussi, contre les Anglais, qui est très courante aux États-Unis.
Donc et contre le défaitisme aussi.
Et contre le défaitisme, effectivement, tout ce qui pouvait en fait désunir les Américains qui venaient d'entrer dans la guerre.
Alors vous parlez de journalistes, mais on se demande quand même qui est vraiment à la manœuvre là-derrière, parce que vous mettez en exergue le fait qu'il y a deux professeurs du département de psychologie de l'université Harvard qui ont apparemment un rôle très important là-dedans.
Oui, de manière paradoxale, quand on fait de la psychologie, et en plus, donc un des deux professeurs est un mandarin, quelqu'un d'extrêmement connu encore aujourd'hui dans le champ de la psychologie, c'est tout à fait étonnant de se retrouver au milieu donc, d'un journal, d'une rédaction, de quelque chose qui publie toutes les semaines des démentis. C'est un petit peu le fil rouge de ce livre, parce que je l'ai construit du coup un petit peu aussi autour de ces personnages. C'est pas juste un essai sur ce que c'est que le fact-checking en temps de guerre. C'est vraiment qui sont ces gens qui se sont mis en mission de démentir à eux tout seuls. Ils sont pas soutenus apparemment par les gouvernements, ils sont pas soutenus par les services officiels. Il y a apparemment une initiative privée qui consiste à démentir donc des rumeurs qui circulent comme ça. Alors pourquoi ces deux psychologues? C'est un petit peu le fil rouge et un petit peu l'enquête que j'essaye de mener. Je ne suis pas certain, finalement, au bout de mon livre, d'être arrivé à répondre à la question. Et en même temps, c'est absolument passionnant parce que ça montre qu'en fait, il y a eu, à la base de cette initiative-là, de cette expérience journalistique-là, une vraie bonne volonté de plusieurs personnes. Alors, ils ne sont pas que deux. Disons, il y a quatre acteurs principaux dans cette rubrique. Et à eux quatre, ils sont soutenus par personne, mais ils vont quand même se lancer dans cette mission. Et en fait, ce qui est très surprenant aussi, et ça fait partie de l'enquête, c'est que ça commence en mars 1942. La guerre n'est pas finie en décembre 1943. Et pourtant, la rubrique termine en 1943.
On y reviendra avec toutes les critiques aussi qui se sont exprimé contre cette rubrique. Mais ça, voilà. On y reviendra tout à l'heure. Moi, je voudrais déjà qu'on parle du rapport de la rumeur à la vérité. Dans le cadre défini par la clinique de la rumeur dans ce Boston Herald, en fait, il n'y a de rumeur que fausse. C'était déjà une approche un petit peu biaisée.
Oui, c'est assez juste. En fait, derrière le fact-checking, aujourd'hui, comme à ce moment-là, il y a une part de choix éditorial. En fait, quand on est fact-checker, on choisit les informations que l'on veut fact-checker, que l'on veut démentir ou confirmer. Et donc, il y a une forme de méta-journalisme, où il y a une forme de choix subjectif, donc des informations à vérifier ou pas. Ce choix-là, il est étrange parce qu'il est souvent dirigé par la volonté de montrer ce qui est faux et pas de confirmer ce qui est vrai.
Oui, mais c'est parce que quand on fait partie d'une rédaction, ce qui s'avère vrai, finalement, c'est le service enquête, c'est les services spécialisés dans différentes rubriques
voilà.
qui s'en chargent.
Et normalement, le faux ne devrait pas être diffusé, ne devrait pas circuler dans les médias. Pour autant, malheureusement, disons, il existe mille manières de faire circuler le faux, y compris par le démenti. Et ça, c'est un des problèmes majeurs que pose le fact-checking et qui est soulevé donc, à l'occasion de cette première expérience-là. C'est que lorsque je veux démentir quelque chose, eh bien, la première chose que je fais, c'est je cite la rumeur que je veux démentir. Et par conséquent, je la diffuse. Donc, les rumeurs qui circulent dans la ville, vous parliez à l'instant que cette rubrique avait connu, par exemple, une promotion. Il y a eu des journalistes qui ont parlé de cette rubrique-là dans d'autres journaux que le Boston Herald. Et les autres journaux, ben, pour illustrer le succès de cette rubrique-là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Mais ils ont diffusé des rumeurs. Et donc, le journalisme se retrouve pris un petit peu à son propre piège. Le faux se diffuse malgré nous, en fait. Et le faux est partout. Et évidemment, il faut le lutter contre. Hein. Je ne suis surtout pas en train de dire qu'il ne faut pas lutter contre. Mais c'est extrêmement complexe de lutter contre le faux, la rumeur, le canular, le hoax aujourd'hui, ou les fake news, sans nourrir la bête.
Leur donner de visibilité.
Exactement.
Ouais. Alors, il y a aussi un petit problème, c'est celui de la réfutation. Comment on opère, comment on fabrique, comment on présente le démenti. Vous montrez comment cette rubrique-là, la clinique de la rumeur, contribue à construire l'illusion que la hauteur de l'autorité qui réfute une allégation détermine la certitude d'approcher la vérité.
Oui, c'est assez juste. C'était quelque chose qui est peut-être un peu différent avec ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est que dans les années 40, là, dans ce journalisme-là américain, les sources des réfutations vont être cherchées au plus haut dans l'État. La plupart du temps, dans les sources officielles. On a vu un parachutage d'un tel endroit dans la ville de Boston. Le fact-checker, il va aller interroger l'agent des relations publiques de la base militaire de Boston. Aujourd'hui, ça ne se ferait plus de la même manière parce que probablement le temps a changé et nous ne mettons plus la même confiance dans les autorités officielles. Nous cherchons à avoir des preuves indépendantes, précisément, des sources officielles. Alors que là, c'est tout à fait surprenant. Hein. Plus de 2/3 des sources de réfutation sont liées à des services officiels. Et quand je dis services officiels, c'est quelquefois les services secrets.
Oui, on a même Edgar Hoover.
Et voilà, le chef de la police. Donc on voit que bon, les temps ont changé, mais qu'il y a dans cette activité-là quelque chose qui est commun, c'est qu'on croit dans tous les cas que grâce à une source, on va réussir à détruire le mensonge, la rumeur, le faux. Et que, en fait, c'est raison contre raison, c'est fait contre fait. Et c'est cette illusion-là qui est assez compliquée à comprendre et à analyser, parce que, évidemment, on ne va pas laisser circuler les fausses nouvelles, mais pour autant, comment est-ce qu'on fait pour lutter contre une fausse nouvelle ? Je crains qu'aujourd'hui encore, on ait du mal à trouver la panacée, la recette pour lutter contre la fake news, l'infox ou la rumeur.
Le plus difficile étant de démonter les choses qui n'existent pas.
Exactement, ça c'est tout à fait juste. Il est beaucoup plus difficile de montrer que quelque chose qui n'existe pas, plutôt que de montrer quelque chose qui existe, existe. Ouais. On ne peut pas toucher l'absence.
C'est un petit peu l'inversion de la charge de la preuve. Mmh. Il y a aussi l'objectif qui, en cette période de guerre, en 1942, vise à contrer la propagande nazie, et notamment cette propagande qui visait à flatter l'isolationnisme américain pour dire au public américain « mais ceci n'est pas votre guerre, donc mêlez-vous de ce qui vous regarde, ne venez pas combattre le nazisme en Europe ». In fine, il n'a pas été possible de prouver que les rumeurs circulant en Amérique à l'époque étaient majoritairement inspirées de l'ennemi.
Exactement. Mais c'est un peu l'œuf et la poule. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait des rumeurs extrêmement hostiles au gouvernement américain de l'époque ou aux forces en présence, mais on ne sait pas si c'était parce qu'il y avait des opposants aux États-Unis, et en particulier dans les années 38, 39, 40, 41, là, il y avait un mouvement antisémite extrêmement fort, un mouvement néo-nazi, enfin non, pas néo-nazi d'ailleurs, nazi tout court. Il y avait des gens qui défilaient avec des croix gammées à New York dans des manifestations.
Il y avait d'incroyables discours de la part de Lindbergh, par exemple.
Exactement. Hein. Lindbergh était un des grands acteurs du mouvement America First, qui a encore des résonances aujourd'hui hein, très fortes. Et donc, on voit que l'Amérique est divisée, en fait. Elle est divisée avant-guerre. Évidemment, l'objet du gouvernement de l'époque, lorsqu'il se déclare en guerre parce qu'il est attaqué, c'est de réunir précisément les Américains autour d'une cause commune et de faire en sorte que toutes ces divisions-là disparaissent le plus possible, qu'on revienne à l'unité d'un peuple américain derrière une cause commune.
Vous écrivez « La crainte de la cinquième colonne » n'est pas bonne conseillère.
C'est vrai qu'à force de crier donc, au loup en permanence, de crier à la traîtrise, hein, la cinquième colonne, c'est cette expression qu'on utilisait beaucoup à l'époque.
Contre pour l'ennemi de l'intérieur.
Un ennemi de l'intérieur, justement, des gens qui ne seraient pas patriotes, qui ne participeraient pas à cet effort national patriotique. Le fait de croire qu'il y a des traîtres parmi nous, effectivement, divise, pas juste en termes de générosité, mais aussi parce que pour qu'une guerre soit victorieuse à l'extérieur, il faut qu'elle soit aussi victorieuse à l'intérieur. Il y a tout un effort, donc, À l'époque, ça s'appelle le home front, le front intérieur. On sent que là, pour le coup, les services officiels américains sont très à la manœuvre pour essayer de rassembler les Américains autour de causes communes.
Mais alors, pourquoi cette aventure de la clinique des rumeurs s'est-elle arrêtée brutalement en 1943?
Alors, j'ai effectivement creusé cette affaire parce que je ne comprenais pas moi-même, en démarrant cette enquête, pourquoi est-ce que ça avait pu s'arrêter en plein milieu. D'autant plus que ça s'est arrêté abruptement, et ça s'est pas arrêté seulement dans une rubrique, parce que la rubrique de Boston a essaimé, il y a eu plusieurs rubriques autour, et toutes les rubriques ont disparu en même temps, à l'automne 1943.
Est-ce que c'est à cause des critiques qui commençaient à voir le jour contre ce que certains présentaient comme une police de la pensée?
Alors, c'est possible. Effectivement, on a vu apparaître dans les journaux américains des critiques assez fortes contre cette tentative de lutter contre les rumeurs. Il y a peut-être aussi la question du coût. C'est coûteux, en fait, d'organiser une rubrique de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il faut entretenir, il faut payer des journalistes, il faut payer le journal lui-même, certainement. Mais,
il y a aussi tout le travail de collecte des rumeurs.
Voilà. Pour qu'il y ait des rumeurs à démentir, il faut les collecter. Et ça, c'est quelque chose aussi de tout à fait étonnant dans cette affaire-là. C'est que je le montre. Alors, je ne veux pas tout divulgâcher. Hein, je ne veux pas tout vous donner comme
bon,
ça.
Il
faut donner envie de lire. Mais effectivement, il y a quelque chose de tout à fait étonnant, c'est que très rapidement, pour que cette rubrique fonctionne, il a fallu que, d'une manière ou d'une autre, il y ait un système de renseignement, de collecte d'informations, de collecte de rumeurs, et comme par hasard, ben, on trouve des traces très, très, très patentes, enfin, c'était évidente, de constitution d'un réseau de mouchards, d'indicateurs, ou de choses comme ça, qui ramènent donc en un lieu toutes les rumeurs qu'il fallait démentir. Ça, tout ça, c'est coûteux, donc il est possible aussi que la deuxième raison, hein, ce ne soit pas seulement les critiques, mais ce soit le coût de ces rubriques-là, et il y a une troisième raison qui est aussi tout à fait croustillante, c'est qu'au bout d'un moment, on se rend compte que les services de renseignement américains s'intéressent de très près à cette affaire et commencent à s'inquiéter parce qu'ils vont faire des études scientifiques. Alors, les services de renseignement à l'époque commandent des études scientifiques à d'autres sociologues, psychologues quelquefois, mais là, il s'agit d'un sociologue qui fait une étude et qui montre une chose absolument désastreuse pour la destinée de cette rubrique-là, c'est le sociologue montre que dans ce genre d'émissions-là, il avait étudié ça sur les émissions de radio, on retient davantage les rumeurs que les réfutations. Et il le montre scientifiquement avec une preuve relativement solide. Et évidemment, les services de renseignement américains, à partir du moment où ils ont ce rapport-là entre les mains, s'inquiètent énormément et vont monter une affaire, vont monter quelque chose pour que la rubrique s'écroule d'elle-même. Et on lui enlève, en fait, son financement et probablement ses acteurs aussi. Et finalement, en décembre 1943, cette rubrique s'éteint d'elle-même.
Et vous écrivez « Ce qu'on apprendra sur ce qui s'est passé dans les années 40 ne pourra qu'instruire le présent et nous permettre d'y réfléchir autrement, bien évidemment. »
Certainement, je crois qu'il y a un très très fort lien entre ce qu'on fait aujourd'hui quand on fait du fact-checking, quand on lutte contre les infox, et ce qui s'est passé en 1942.
Oui. Oui, mais alors justement, maintenant, il y a le numérique, il y a les réseaux sociaux qu'il n'y avait pas à l'époque. Donc ça introduit quand même un fait nouveau très important qui justifie peut-être que cette démarche soit revenue au goût du jour.
Alors c'est tout à fait possible qu'il y ait un aspect technologique, d'autant plus qu'à l'époque on assiste aussi, le 1942, c'est la victoire de la radio. Hein. La radio était toute puissante. Et donc, il y a précisément un rapport à la technologie. Les gens qui voulaient prouver la puissance des médias étaient souvent étonnés par l'arrivée de nouveaux médias. Aujourd'hui, on a des nouveaux médias et on est étonné par leur puissance. Néanmoins, il ne faut pas croire que la technique nous guide tant que ça. Parce que, effectivement, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont omniprésents et ils diffusent beaucoup plus largement les informations qu'on avait jusqu'à présent. Mais c'est aussi des très bons moyens de contrôle. C'est-à-dire que ceux qui ont le contrôle de ces réseaux sociaux-là sont aussi très très bien placés pour contrôler, du coup, les informations qui y circulent.
Mais les fact-checkers ont de nouveaux outils à disposition. On parle souvent dans cette émission de la recherche d'images inversées, c'est-à-dire des outils numériques qui permettent d'invalider certaines fausses informations de façon absolument certaine.
Exactement. Et donc, on voit que ce n'est pas la technologie qui est mauvaise en soi. La technologie, c'est plutôt ce qu'on en fait qui en détermine le bénéfice ou le coût. Aujourd'hui, si on fait du fact-checking sur les réseaux sociaux, ce qui est compliqué, c'est qu'on se heurte à une diffusion qui n'est plus la diffusion massive de la radio, c'est-à-dire une diffusion qui était sur un pays en entier. Là, aujourd'hui, on a un mode de diffusion qu'on appelle réticulaire, c'est-à-dire par réseau, par des petites cellules, des bulles de filtre, comme on dit. Et donc, chacun d'entre nous sommes englués dans des réseaux, des communautés.
Des chambres d'écho.
Des chambres d'écho assez étanches les unes aux autres. C'est pas quelque chose de nouveau. Lorsque je lisais Libération avant sur papier, ben, j'étais probablement de gauche. Lorsque je lisais Figaro sur papier, j'étais probablement de droite. Donc, on voit bien qu'il y avait déjà des communautés. Mais ces communautés étaient plus poreuses et moins exclusives l'une à l'autre. Aujourd'hui, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on a tendance à s'enfermer comme ça, par confort, grâce aussi aux algorithmes qui nous proposent en permanence des contenus qui nous maintiennent dans cette zone de confort-là et qui font que, pour sortir avec des nouvelles informations ou être confronté à des informations un peu divergentes, eh bien, il faut que je fasse un effort que, évidemment, l'addiction, ou plutôt tout le dispositif technique, essaye de gommer. Hein. On essaye, au contraire, qu'on reste le plus longtemps sur une application. Et vous ouvrez la moindre application de réseau social, vous pensez y passer 2 minutes, vous y passez 2 heures.
Que dire de ces attaques que l'on entend aujourd'hui à propos du fact-checking ? Que ce serait un moyen de censure, que c'est la nouvelle chasse aux sorcières, ça fait écho à votre livre, ça aussi, parce que ça a été reproché à la fameuse clinique des rumeurs, cette chasse aux sorcières, mais cette fois, on est à front renversé.
Oui, alors la question de la bonne information est une question qui se pose réellement, en fait. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne information ? Dire que les fact-checkers sont dirigés par une nécessité idéologique, franchement, j'ai du mal à y croire. Je crois que les fact-checkers, surtout quand ils sont formés comme des journalistes, et la plupart du temps, ce sont des journalistes qui assument cette fonction, ils font un travail qui est un travail justifié, dont la méthode est suffisante. Ce qui est problématique, c'est qu'il existe aussi des fact-checking qui sont militants. En reprenant la même méthode, il va y avoir des gens d'extrême droite qui vont faire du fact-checking en reprenant que des faits qui sont évoqués dans une presse d'extrême droite. Même chose à l'extrême gauche. Donc la question du fait, qu'est-ce que je vais mettre en avant pour faire exister la réalité ? Eh bien, en fait, il faut qu'on revienne tout simplement, non pas à la religion du fait. Le fait n'existe pas en soi. Le fait, c'est une vision de la réalité. Il faut que je puisse la discuter.
Merci beaucoup, Pascal Froissart. Je rappelle le titre de votre livre « L'invention du fact-checking », enquête sur la clinique des rumeurs, Boston, 1942-43, aux Presses universitaires de France. Pendant que la nouvelle équipe aux affaires à Washington s'ingénie à démonter toute initiative de lutte contre les infox, en assimilant le fact-checking à de la censure, l'écosystème russe de la désinformation, lui, a le vent en poupe. Non seulement Moscou initie de prétendues formations au fact-checking avec la participation de grands pourvoyeurs d'infox, mais il étend son réseau grâce à un vivier d'étrangers chargés de répandre le narratif du Kremlin et rien d'autre.
On en parle.
Bonjour Pauline Moffret.
Bonjour.
RSF vient de sortir une enquête sur un organe qui se présente comme un organe de presse international indépendant et qui est en fait une officine en charge de la propagande du Kremlin, ce que ne dit pas son nom, puisque ça s'appelle International Reporters. Alors, de quoi s'agit-il ?
Donc, c'est un site en ligne qui est un site enregistré en Russie, qui a été lancé à l'automne 2023, qui est en fait un site qui rassemble une douzaine de propagandistes d'au moins 8 pays, donc des Français, Canadiens, Italiens, Britanniques, qui en fait quotidiennement publient des articles, des vidéos pour relayer la propagande du Kremlin, qui justifie son invasion à grande échelle de l'Ukraine, mais aussi qui justifie sa politique étrangère à l'international.
Quels sont les liens réels et avérés avec le Kremlin en fait ?
Donc RSF, on a travaillé sur cette enquête depuis plusieurs mois et on a réussi à établir en fait déjà des liens financiers. C'est-à-dire que International Reporter fait partie des cercles du Kremlin parce qu'il est financé en partie par le ministère russe du développement numérique, donc ça c'est un financement direct, dont le montant n'est pas connu, mais qui est accessible en ligne, on a les informations, ils ont reçu un financement en 2024, mais également par une organisation qui s'appelle Anno Dialogue Regions, donc en fait ça c'est une organisation russe qui est sous sanctions américaines et européennes, parce qu'elle est dirigée par un certain Vladimir Tabak. Vladimir Tabak, c'est un propagandiste également sous sanctions, un proche de Vladimir Poutine qui a travaillé au sein de l'administration présidentielle. et qui, en fait, depuis quelques années, à la tête de cette organisation Dialogue Region et Dialogue, ces deux organisations, en fait, participe à propager la désinformation et la propagande russe à l'étranger, c'est pour ça qu'il est sous sanction, et son organisation en fait finance des nouvelles initiatives comme International Reporter.
Tabak, on le connaît pour avoir notamment contribué ou organisé dans une certaine mesure cette campagne qu'on appelle Doppelganger, qui était une véritable campagne offensive informationnelle avec des faux contenus, des fausses unes de journaux, des faux articles de journaux, des faux sites, pour dénigrer l'aide à l'Ukraine.
Tout à fait. Et en fait, ce financement de l'International Reporter n'est du coup pas anodin, parce que ce site qui publie principalement en français et en anglais, il y a des publications en russe, mais son idée est d'atteindre des audiences, des publics à l'étranger pour justifier l'invasion russe en Ukraine.
Qu'est-ce que l'on peut dire des protagonistes, des soi-disant journalistes qui font partie de cette organisation ?
Déjà, on peut dire qu'ils ne sont pas inconnus. C'est des personnes qui évoluent dans les milieux de la propagande depuis quelques années. Une grande partie d'entre eux, en réalité, vivent en Russie. Ils ont parfois obtenu la nationalité russe après quelques années. Et c'est aussi des gens qui se sont fait connaître. Certains ont par exemple coopéré avec des chaînes de propagande comme RT. Certains ont aussi diffusé le narratif de Bachar al-Assad à l'époque. Donc en fait, c'est des personnes qui, quand on creuse, ont fait les liens. Elles sont connues des milieux de propagande et participer à ce projet d'International Reporter, qui est du coup un nouveau projet, qui de prime abord a un nom en anglais, qui vise à semer la confusion pour les personnes qui ne connaissent pas forcément. En fait, pour elles, ça leur donne une nouvelle plateforme pour atteindre leur public.
Mais justement, quel est ce public ?
International Reporter, sur le papier et dans les faits, a une audience assez limitée. Ils ont près de 20 000 abonnés sur X, ils ont plus de 56 000 abonnés sur Telegram, ils sont également sur Vkontakte, donc l'équivalent russe de Facebook, qui sont également sur Facebook. Donc c'est une audience qui est assez limitée, mais en fait, c'est presque pas ça leur sujet. Leur sujet, c'est de s'étendre et de toucher un public étranger. Donc un public en Europe, un public sur le continent africain, un public au Moyen-Orient, parce que leur travail, leurs publications sont principalement en français et en anglais. Il y a un petit peu de russe, il y a des russophones dans l'équipe, mais elles sont surtout destinées à un public francophone et anglophone. Et International Reporter essaye de toucher un nouveau public en recrutant des nouveaux correspondants, des nouveaux reporters qui eux-mêmes vont publier en français, anglais, italien, etc. pour diffuser le narratif du Kremlin. Et puis aussi en ayant des coopérations, des accords avec d'autres organisations. Et donc, dans le cadre de cette enquête, on a par exemple vu que en juin 2024, lors d'un forum économique à Saint-Pétersbourg, International Reporter a signé un accord avec un groupe de presse camerounais qui s'appelle For You Media, qui a été ouvert en 2022, qui est en fait un groupe de presse qui participe aussi à diffuser la désinformation du Kremlin depuis 2022. Et cet accord, en fait, qui a été signé, dans les faits, c'est de dire qu'il y aura davantage de place accordée aux collaborateurs de, par exemple, International Reporter dans les contenus de For You Media. Donc, il y en a qui ont déjà eu plus d'interviews, qui participent davantage à des débats, donc ils ont en fait davantage de visibilité. Et aussi, d'avoir possiblement des formations organisées par les pseudo journalistes russes, donc des propagandistes, pour les journalistes de For You Media. Donc, c'est une construction progressive, mais l'idée est de s'étendre à l'étranger pour toucher un public plus large.
Merci beaucoup, Pauline Moffret.
Merci à vous.
On mettra l'enquête en lien sur notre site. Les Dessous de l'Infox, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à nos invités et chroniqueurs, ainsi qu'à Tiffany Menta à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous laisse en compagnie de Philippe Le Caplin. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Sophie Malibu. C'était donc Les Dessous de l'Infox sur Radio France Internationale. Dans 32 minutes, tenez, pile maintenant, ce sera Afrique Soir avec vous, Sylvie Berruet. L'actualité en Afrique avec à la une.
Eh bien, la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo avec cette question, comment parler d'une même voix pour éviter l'escalade dans la région? Les ministres des Affaires étrangères de la Communauté des États d'Afrique de l'Est et de la SADC, la Communauté de Développement d'Afrique australe, se sont réunis aujourd'hui à Dar es Salaam avant un sommet extraordinaire de ces deux organisations régionales demain. Le Burundi, lui qui soutient l'armée congolaise, congolaise contre les rebelles du M23, soutenus eux par le Rwanda, envoie un bataillon supplémentaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Et puis le Conseil des droits de l'homme de l'ONU donne lui son feu vert à l'ouverture d'une enquête sur les exactions commises dans l'est du pays.
Quoi d'autre ?
Le Cameroun, avec la répression mardi d'une grève dans la filière sucrière Susacom du centre du pays, à Nkoting, une répression qui a fait au moins un mort. Et puis nous parlerons du football avec la suite des réactions à la suspension de la Fédération congolaise, suspension qui a été prononcée hier soir par la FIFA. Enfin, le nouveau phénomène musical d'Abidjan n'est pas ivoirien, vous l'entendrez, mais américain. Il s'agit de la rappeuse Sarafina, que nous fera découvrir notre correspondante Marine Janin. Et ça décoiffe.
Et ce sera donc dans Afrique Soir, qui sera suivi par Ici l'Europe, qui recevra Enrico Letta, le président de l'Institut Jacques Delors, l'ancien président du Conseil italien. C'était il y a 10 ans. Dans 30 secondes, un nouveau journal sur RFI.